France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, 8h30 sur France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Soleil, rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Nette, qui est anthropologue. Aurélie explore dans ses 4 livres déjà publiés les manières contemporaines de vivre la spiritualité, qu'il s'agisse de prières, de quêtes de sens, de guérison ou de relations à l'invisible. Elle est également accompagnante spirituelle auprès de jeunes placés en institution dans le cadre de l'Église réformée vaudoise, chroniqueuse pour le journal Réformé, formatrice à Cèdre Formation. Aujourd'hui, avec elle, nous partons à la recherche de cet invisible qui habite nos vies, entre foi, quête et expérience sensible du monde. Bonjour Aurélie Nette.
Bonjour Jean-Luc.
Nous parlerons davantage ce matin, en effet, de ce livre « En dialogue avec l'invisible » sorti aux éditions Saint-Augustin, qui s'intéresse à ces expériences qui échappent au visible sans pour autant sortir du réel. Aurélie, pourquoi ce mot « invisible » vous semble-t-il aujourd'hui si parlant, si nécessaire ?
L'invisible, c'est la poésie de la vie. C'est toute cette subtilité qui permet finalement d'habiter le réel, de lui donner une densité un petit peu différente. Ça nous permet aussi, l'invisible, de nous relier aux choses qui sont vraiment importantes, notamment aux relations qui sont significatives. Et puis en anthropologie, on cherche vraiment à explorer le cœur de l'action humaine, le cœur du sacré dans nos vies. Et c'est vrai que je pense que l'invisible vraiment rassemble toute cette dimension nécessaire actuellement et qui nous parcourt l'histoire, on va dire, de cette recherche, de cette quête spirituelle ou religieuse ou philosophique en fonction des personnes.
Alors, je l'ai dit, vous êtes anthropologue. Alors d'ailleurs, vous n'avez pas du tout le physique de l'anthropologue classique que l'on peut avoir en tête. Voilà, peut-être un vieux monsieur avec une grose barbe, des longs cheveux, enfin je sais pas.
Je me suis rasée pour ce matin, Jean-Luc, donc tout va bien.
C'est peut-être des bêtises totalement ce que je dis là, mais voilà. En tout cas, vous êtes jeune et vous étudiez, vous avez fait ce choix d'étudier l'humain tant dans ses aspects physiques que culturels. Selon vous, donc, que nous disent nos pratiques spirituelles d'aujourd'hui sur ce besoin de sens, de lien, de guérison même que vous évoquiez ?
Oui, alors ces pratiques, alors elles sont très larges. On a une diversité maintenant en termes de pratiques, en termes de traditions spirituelles, religieuses, philosophiques. On a vraiment un choix qui est assez incroyable dans notre société. Et puis en même temps, il y a cette quête, il y a toujours ces questions de ces moments dans l'existence qui sont complexes, qui sont difficiles. Donc comment chacun, chacune finalement chemine pour faire face à des situations qu'on rencontre tous. Vous parliez de la guérison. J'ai rencontré des femmes qui avaient des maladies chroniques et qui, grâce à la spiritualité, grâce à des thérapies non conventionnelle, chercher du sens, mais aussi, comment dire, à retrouver une forme de pouvoir, à se repositionner finalement dans leur vie et vis-à-vis des autres personnes. Parce que les moments de fragilité, c'est des moments qui nous, voilà, où il y a une vulnérabilité qui se vit et il faut pouvoir l'habiter, il faut pouvoir trouver des solutions, des stratégies.
C'est peut-être ces moments-là qui nous ouvrent à quelque chose d'autre, justement.
Absolument.
Ces moments de fragilité.
Parce que c'est des moments où votre identité, elle est en jeu. Ouais. Il y a des moments où l'histoire que vous vous racontiez, l'histoire que vous étiez en train de vivre, eh bien, elle n'est plus tout à fait la
même. Elle est chahutée,
elle change, bousculée. Elle est bouleversée. Ouais. Et donc, dans ces moments où l'identité se transforme, c'est vrai que l'invisible, dont on va parler aujourd'hui, peut apporter un certain nombre de clés. En tout cas, c'est ce que les personnes que j'ai rencontrées m'ont partagé.
Il y a beaucoup de témoignages dans vos écrits. Vous allez à la rencontre de personnes.
Oui, et puis pour moi, c'est très important de pouvoir laisser la parole aux personnes, parce que finalement, voilà, moi je travaille en tant qu'anthropologue.
Avec les gens.
Et je travaille à partir et grâce et avec les personnes et leurs récits.
Oui.
Et c'est tout ce travail narratif que les personnes font quand elles se racontent pour essayer de comprendre finalement leur trajectoire, leur cheminement, à quel moment elles se sont intéressées à telle ou telle pratique, à quel moment leur voie spirituelle, on va dire leur cheminement a bifurqué. C'est essentiel et en même temps, il y a peu d'espace où les gens peuvent parler de leur spiritualité parce qu'il y a une dimension de pudeur, suivant les traditions,
le secret,
peu. Et c'est vrai que finalement, ce sont des récits finalement, qui ont une forme de banalité dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que vivent les personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, mais dont on n'entend pas forcément parler. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce jeu autour de ces témoignages et de mes écrits.
Vous parliez des femmes, vous évoquez les ritualités entre femmes, les cercles, les gestes symboliques. Que révèle-t-il finalement du monde spirituel contemporain ?
Oui, j'ai travaillé pour une recherche qui est devenue un livre qui s'appelle « Les cercles de femmes », justement sur ces moments où les femmes se rencontrent entre elles pour finalement rêver des nouvelles modalités relationnelles autour de la sororité. Donc c'est se poser aussi, peut-être en tant qu'actrice de sa vie, pouvoir revisiter des moments qui sont difficiles. Beaucoup de femmes ont vécu des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Et c'est vrai que ces espaces entre femmes permettent aussi de mettre des mots sur ce qui a été vécu, verbaliser aussi les mots, M-A-U-X, et puis pouvoir peut-être se réapproprier un certain nombre après de choix, voilà, dans son quotidien. Et donc, c'est des moments qui sont très forts. Voilà, donc les personnes viennent et puis participent et puis changent d'inscription, de lieu. C'est vrai qu'il y a cette forte plasticité de la spiritualité contemporaine qui prend plusieurs formes. Donc c'est aussi ça que j'essaye d'étudier. C'est finalement cette créativité humaine qui se révèle dans le rapport à l'invisible.
Alors vous connaissez l'émission, vous le savez, il y a le rendez-vous avec la parole dans Solae qui accompagne fidèlement ces entretiens. Quelques lignes du texte biblique sont lus, écoutés pour faire écho, nourrir la discussion, ouvrir parfois des portes nouvelles, toucher à l'invisible d'une certaine façon. Vous m'avez proposé spontanément un morceau d'évangile, c'est le passage important du temps de la résurrection du Christ, quand Marie-Madeleine ou de Magdala vient au tombeau. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 20, les versets 11 à 18, avec la précieuse lecture d'un artiste du Verbe, puisque c'est Mick qui s'en charge.
Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni !» ce qui signifie « Maître !» Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce « J'ai vu le Seigneur !» et elle leur raconte ce qu'il lui a dit.
Quelle belle histoire, Aurélie Netz. Au tombeau vide, Marie-Madeleine tend la main vers un corps disparu, mais c'est une autre présence qu'elle rencontre, un invisible qui bouleverse son regard. Qu'est-ce que cette scène vous inspire ?
Je trouve que cette scène, elle est un récit qui est très fort parce que, quelque part, elle modèle aussi notre rapport à l'invisible. C'est-à-dire que Marie-Madeleine est là, elle se retourne, elle se re-retourne. Et donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, une capacité, une perception. Et puis, il y a aussi ce surgissement. Ouais. Et il y a tout un temps de discernement pour Marie de Magdala, de se dire, mais qui est-ce que je vois finalement ? Qui est-ce que je perçois ? Et puis, il y a ce lien très fort, hein, de vouloir toucher, de vouloir être proche, d'être encore dans ce lien affectif, finalement, au Christ. Oui. Et là, non, il y a quelque chose de spirituel et il y aura quelque chose de communautaire à faire. Et donc, ce jeu que je retrouve aussi quelque part avec les personnes que j'ai interviewées et qui me disent comment elles apprivoisent finalement une qualité de présence qui leur permet de se mettre en lien avec cet invisible. Et ce lien à l'invisible ne doit pas rester bloqué à soi, bloqué, vraiment centré sur la personne, mais qui doit effectivement s'ouvrir ensuite sur la communauté, sur le partage, sur le dialogue, le récit, et qu'en fait l'expérience de l'invisible, c'est quelque chose qui est censé ouvrir.
Alors est-ce que pour vous, la spiritualité, la foi, consiste justement à apprendre à voir autrement ?
Oui.
Pour reprendre les propos entendus là dans ce texte ?
Absolument. Les femmes et les hommes que j'ai rencontrés me parlent finalement de ce travail très fin sur soi, sur ses perceptions, sur son rapport au monde. Parfois, c'est faire le deuil de certaines situations. Je pense à la maladie. Parfois, c'est nourrir l'espoir, hein, qu'on ait une attente, par exemple, pour certaines des femmes que j'ai rencontrées autour de la vie de couple. Mais il y a aussi cette capacité de se mettre à l'écoute d'une forme de poésie, surtout pour les personnes qui m'ont parlé de liens avec des esprits, des défunts, par exemple, hein, pour reprendre leurs termes, et qui se sentent en lien avec cette dimension-là. Et finalement, il y a cette poésie très fine qui se tisse et qui est aussi très touchante, touche, quelque part. Ouais. Ouais, ouais.
Alors, entre foi et anthropologie, comment tenez-vous ensemble, peut-être, les deux côtés, à la fois l'expérience spirituelle et puis le regard critique, quand même, face à ce qui vous est raconté, ce qui vous est dit par ces personnes ?
J'ai beaucoup de chance avec la méthode ethnographique. Il y a le travail sur le récit, les entretiens, qui sont une part importante. Donc on essaye de vraiment être dans cette curiosité, cette bienveillance, vraiment essayer de comprendre ce que la personne nous dit. C'est pour ça qu'il y a de nombreux entretiens, plusieurs heures répétées, on relit ensemble, on réécoute. Et puis il y a l'expérience, c'est l'observation participante. Et donc c'est intéressant parce que on participe à des rituels. Par exemple, je suis pour le dernier livre sur la cathédrale, je suis allée à la cathédrale de Lausanne, j'ai participé à des rituels. Là, pour le livre En dialogue avec l'invisible, j'ai rencontré des médiums. Donc, à travers mon expérience, j'essaye aussi de me rapprocher et d'essayer de comprendre ce que les personnes vivent, tout en sachant que je ne suis pas elles, que je n'ai pas leurs expériences. Hein. Par rapport à l'invisible, j'ai des expériences qui sont différentes, qui ne sont pas de la même teneur. Et donc finalement, il y a cette écoute, cette sensibilité, et puis en sachant qu'effectivement, ce que je dis, et voilà, comme vous dites, hein, il y a une distance analytique, nécessaire, réflexive, mais bienveillante. Et c'est ce jeu, finalement, que j'essaye de tenir, voilà, cet équilibre.
Dans un monde qui est saturé d'images, de rationalité, finalement, parler d'invisible peut en même temps sembler parfois un peu anachronique. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un vrai appétit actuel pour le mystère, entre guillemets. Comment vous percevez tout cela, vous ?
Alors, c'est vrai qu'on a une représentation, qu'on a, voilà, avec les lumières, on a balayé tout ce qui n'était pas visible, qu'on ne pouvait pas, qui était intangible, ce qu'on ne pouvait pas toucher, ce qu'on ne pouvait pas saisir. Voilà, on était de l'ordre de l'irrationnel, on était de l'ordre aussi de l'hallucination, hein, parce qu'on a cette catégorie qui arrive au 19e.
Avec la moquerie qui accompagne souvent.
Et on évacue, du coup, un certain nombre d'expériences, en tout cas, une certaine manière de donner sens à des expériences de femmes et d'hommes au quotidien. Et donc il y a ce décalage, cette représentation qu'il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus d'invisible, avec une réalité que les personnes font expérience, ou en tout cas décrivent un certain nombre d'expériences comme étant celle de l'intangible et de l'invisible. En France, il y a une recherche Ipsos qui nous dit qu'il y a quand même 34% des personnes qui croient à une forme d'invisible.
Donc c'est important.
Donc c'est pas négligeable, et pourtant on en entend peu parler, donc c'est vraiment l'apport, on va dire, de l'ethnographie, c'est de partir de ce que les personnes vivent.
Et vous ressentez cet intérêt pour le mystérieux, pour l'intangible, justement, dans la société aujourd'hui ?
Oui. Quand je parle de mon livre ou de mes recherches, les personnes ont toujours une histoire à raconter. Et des histoires, des fois, je pense qu'ils passent sous le radar. Je travaille aussi en milieu d'église, comme vous le disiez. Et effectivement, beaucoup de personnes me racontent être en lien avec un ange ou une personne disparue. Donc finalement, c'est des histoires qui sont là, des expériences peut-être aussi qui sont là. Et c'est intéressant de pouvoir y réfléchir et d'analyser ce que ça nous dit aussi de notre société. Qu'il y a des moments dans la vie où, grâce à une relation à l'invisible, en tout cas pour les personnes que j'ai rencontrées et pour qui ce n'est pas problématique, hein, je tiens à le préciser, cette relation à l'invisible, elle soutient d'une manière unique.
Aurélie, je vous présente Vincent Smetana, qui est l'un de nos fidèles chroniqueurs dans Solae. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Aurélie, on ne l'a pas dit, mais vous venez de Suisse. Eh bien Vincent a cette spécificité, lui, parmi nos chroniqueurs en tout cas, c'est d'être belge. Même si ça ne se voit pas forcément comme ça, ça s'entend un petit peu.
Oh, mais c'est pas très grave.
Mais bon. En tout cas, la nationalité nous fait aussi toucher à l'invisible, n'est-ce pas ? Quel enchaînement ! Car c'est ce mot que vous avez naturellement retenu pour dire, puisque, rappelons-le, Vincent a toujours le mot pour dire.
Alors, je voudrais vous parler ce matin de solutions aqueuses étendues de chlorure de cobalt, d'acétate ou de nitrate de cobalt, qui, une fois mêlées de un quart de sel marin, donnent une encre sympathique avec laquelle l'écriture, invisible sur le papier, apparaît en bleu par une légère application de la chaleur, puis disparaît ensuite par degrés à mesure que le chlorure de cobalt reprend de l'eau et reparaît de nouveau par la chaleur. C'est dingue, hein ? Je ne sais pas si oui ou non ça chatouille quelque chose en vous, quelque chose comme l'essence d'un souvenir d'enfance dans l'excitation de ce qui est secret, car invisible est aussi d'autant plus excitant et intrigant, car demeurer caché. Écrire à l'encre sympathique, on dit ça, de cette petite technique d'invisibilité qui porte le langage dans une autre dimension, ce qui existe bel et bien, mais qu'on ne peut pas voir pour autant. Moi, perso, j'avais ma boîte du petit chimiste, vous voyez, avec des fioles, des poudres, des cristaux et une flamme. Mais ce message de l'invisible, j'avoue l'avoir mille fois expérimenté avec juste un peu de jus de citron. Et bien sûr, une gentille allumette à laisser délicatement voyager sous le papier pour que se révèle cette parole tenue secrète, invisible, inaccessible autrement qu'en étant ainsi par le feu mis en lumière et révélé.
Alors oui, Vincent, ça chatouille grave des choses en moi. Vous êtes un poil plus jeune que moi, mais on navigue plus ou moins dans les mêmes générations. Et j'avais, moi aussi, ma boîte de petits chimistes. Ah. Aurélie, peut-être vous aussi, non ?
Non, alors oui, pas j'ai eu, si, bien vous sûr, avez bien eu. Sûr. J'ai des souvenirs très lointains qui émergent, mais absolument.
En tout cas, c'est marrant de voir les souvenirs justement émerger, rejaillir à partir de quelques mots et de notions invisibles a priori, mais bien concrètes dans la mémoire en tout cas.
Alors oui, je le redis, je ne sais pas vous, mais moi ça m'a toujours absolument fasciné, l'invisibilité. Un des livres d'ailleurs que j'ai emprunté 77 fois cette fois à la bibliothèque de l'école, c'est...
77 fois, là c'est 60... le côté belge.
Je suis démasqué. L'homme invisible, oui. Adapté pour la bibliothèque verte du fameux roman d'H.G. Wells, hein, vous souvenez de ça ? Un scientifique découvre une formule d'invisibilité qu'il essaye sur lui-même, profitant de son nouvel état, il commet des vols en tout anonymat, mais il ne parvient pas à trouver l'antidote. Catastrophe, le voilà condamné à demeurer invisible. Utopie scientifique ou rêve très ancien, voir sans être vu. Ah, je suis là, je ne suis pas là, je suis là, tu me vois, tu ne me vois plus. Un récit dont le héros se verra rejeté par tous, traité comme un paria, inadapté, un apprenti sorcier, évidemment misanthrope et grotesque, qui finira captif de son rêve, englué dans une épouvantable tragédie de la solitude et de la différence. Profondément biblique, hein, comme principe, l'invisibilité comme l'un des plus grands mythes de l'humanité, presque. Et je ne vous parle pas de la série que, pareil, je regardais fasciné en suçotant un tic-tac à l'orange, à peine rentré de l'école, dans la série, je pense, de la fin des années 70, un des amis du gars tentait le défi presque impossible de lui confectionner un masque pour le visage ainsi qu'une paire de gants pour les mains conçus en dermaplex, genre, mais fantomas, quoi, genre Jésus, me disait une fille du caté. Mais ouais, une fois les bandelettes disparues, hop, tu ne vois plus, alors que pourtant, il est bel et bien là.
Mais ouais, ouais. Alors, tout pareil pour moi encore pour la série, même peut-être pour le petit bonbon qui accompagne. La série, je la regardais, moi, dans la Une est à vous, le samedi après-midi, avec le fameux David McCallum. Allez, je me calme, je vous laisse.
Bon. Invisible. Allez-y. Masculin et féminin, du latin invisibilis, littéralement non visible, qui échappe à la vue, se dit donc, de ce qu'on peut voir, qui échappe à la vue par sa nature, de ce qu'on ne peut voir, qui échappe à la vue par sa nature, par sa position ou seulement à cause de la distance ou au sens figuré, ce qui a disparu, qui se dérobe au regard et qu'on ne peut rencontrer, sauf si on réveille le désir d'approcher ce qui est invisible mais n'attend qu'à être révélé, communiqué avec l'invisible dans l'intuition d'une approche anthropologique plus intérieure, dialogale, spirituelle, que l'invisible devienne visible, se révèle, livre sa parole. Car, comme le dit Descartes, le visible n'apparaît que dans l'évidence du réel, restant ainsi parfois confus ou formaté, trop connu, trop lisible, alors que l'invisible relève de l'intuition et du sensible, n'est-ce pas là l'essence même d'une quête spirituelle ? Si Jésus était là, présent, même avec des lunettes de soleil, un visage en dermaplexe et des lunettes de soleil, ce serait peut-être très confusant, alors que son invisibilité éveille cette quête intuitive et sensible que chaque parole, chaque geste de lui révèle sa part de vérité, surgit de l'invisible et ainsi mise en lumière au plus profond de notre territoire intérieur, de notre âme, de notre cœur. Ouais, je sais, ça sonne un peu bateau, hein, dit comme ça, sérieusement. Mais si la Bible, si la Bible était écrite avec du jus de citron, vous imaginez la force, la passion, la curiosité, l'amoureux mouvement d'approcher cette parole et la voir mot à mot se réchauffer, se révéler à la flamme de la vérité. Allez, un peu d'audace pour changer. Ne regardons point aux choses visibles, car chercher à ce que se révèle ce qu'on ne voit pas, en voilà un élan unique, une clé vitale, créative, passionnante. Non, l'invisible, c'est passionnant. Je vous dis, non, c'est passionnant, c'est merveilleusement passionnant.
Passionnant, en effet. J'irais même plus merveilleusement passionnant, moi aussi, Vincent. J'ai toujours été fasciné, d'ailleurs, et ça explique peut-être pourquoi je suis là le dimanche matin, par le côté aussi invisible de la radio, de la télévision, du cinéma, l'invisible qui, d'un seul coup, se révèle comme ça, par le son, par l'image. Tout ça est passionnant, en effet. N'est-ce pas, Aurélie?
Oui, absolument. Mais c'est la force du verbe, c'est la force de la parole. Il y a quelque chose qui se transforme au contact de certaines paroles.
Alors, dans ce lien avec l'invisible, il y a bien sûr aussi la prière.
Oui.
Et vous avez sorti depuis ce livre dont nous parlions, un autre qui justement se fixe sur les mots qui deviennent prières, avec un lieu particulier qui s'ajoute, vous l'avez rapidement évoqué, c'est prier à la cathédrale de Lausanne, spiritualité au cœur de la cité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots aussi ?
Alors j'ai eu la grande chance de pouvoir lire les intentions de prière qui sont affichées dans ce lieu. Il y a un tableau d'affichage et des post-it. Donc j'en ai lu 3500, qui m'a permis de découvrir déjà ce que les personnes viennent y partager. Et puis de sentir aussi ce qui s'y vit à la cathédrale, parce qu'on célèbre son 750e anniversaire depuis sa consécration. Et donc c'est ces lieux encore où il y a quelque chose qui peut émerger, qui peut se vivre, une sensorialité aussi un petit peu différente hein, dans ces cathédrales, dans ces lieux spirituels, avec des sonorités et des rencontres aussi assez fortes. Et donc j'étais ravie de pouvoir travailler et classer ces différentes thématiques.
Et qu'est-ce qu'il en ressort ? Plus particulièrement, peut-être quelques exemples ?
L'importance de la guérison.
Ouais.
Le fait de prier pour la guérison d'autrui, cette question de guérison, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle, elle est centrale aussi dans le christianisme.
Ouais.
Donc,
ouais.
Et puis que la prière, elle évolue, elle change. Il y a beaucoup de papiers, de petits billets qui ne terminent pas forcément par un amen.
Ouais.
Il y a beaucoup de prières aussi qui s'adressent directement aux défunts.
Ouais.
Les personnes. Donc finalement, ce lieu est un peu une interface entre différentes réalités, parce que c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de stèles, c'est un lieu qui est traversé et par la vie et par la mort, la cathédrale, comme toutes les cathédrales. Et puis évidemment, toutes les questions de relations. Et c'est le questionnement éthique fondamental qu'on trouve au cœur du christianisme. C'est qui je suis et qu'est-ce que je vais faire et qui est-ce que je vais être pendant ce temps qui m'est donné, qui est limité, comment je vais habiter le monde.
Vous êtes à la fois chercheuse et accompagnante spirituelle. Que vous apprend ce double positionnement ?
L'humilité.
Comment on accompagne spirituellement quelqu'un en difficulté,
alors on
en
l'écoute.
Souffrance ?
Moi, je travaille avec des jeunes, des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, donc qui viennent de situations, qui viennent de milieux très différents et qui sont au foyer pour différentes raisons.
Souvent des choses compliquées, j'imagine.
Des choses très compliquées, aussi la question de la migration avec des mineurs non accompagnés. Donc c'est à la fois regarder l'autre, l'écouter, savoir qu'on ne sait pas. Et à travers ce qui se dit, à travers ce qui se ressent, voir aussi à travers la personne toutes les ressources, toutes les promesses finalement de toutes ces potentialités, la regarder avec ce regard d'amour en tout cas, de préoccupation, de bienveillance. et voilà, lui laisser aussi le temps d'éclore et d'être témoin finalement de ce miracle qui est le miracle de la résilience, qui est le miracle de la croissance, qui est le miracle d'être, de construire des communautés bienveillantes autour de ces jeunes qui arrivent, autour de ces jeunes placés, et cette responsabilité. Donc moi je suis une des personnes du réseau qui est là, et cette importance finalement d'entourer. Elle est centrale dans l'accompagnement spirituel, comme en anthropologie, qui est une science de l'humain, avec l'humain, pour l'humain.
Une dernière question pour vous, Aurélie. Personnellement, où se cache, où se révèle l'invisible aujourd'hui chez vous?
Ouais. Moi, j'ai une spiritualité. Je suis de confession réformée. J'ai grandi dans un milieu, dans une famille où à Noël, il y avait toutes les confessions à table, ouais. Toutes les religions. Peut-être pas l'hindouisme d'Inde, voilà.
Mais il n'en reste pas mal.
Et donc, il y a cette présence, finalement, de notre, à la fois de notre extrême petitesse en tant qu'être humain et en même temps notre grande créativité. Et c'est effectivement pour moi un moteur, hein, ouais. Dans mon quotidien.
Entre foi et regard, entre silence et parole, il y a un espace fragile où l'invisible se laisse approcher. C'est là peut-être que s'ouvre la rencontre avec soi, avec l'autre, avec le tout autre. Merci beaucoup, Aurélie. On peut vous retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur un site aurelinetz.ch. On mettra bien sûr l'adresse dans le texte qui accompagne le replay de l'émission sur le site de France Culture. Rappelons aussi les titres de vos livres, chez l'Harmattan, Les Cercles de Femmes, et aux éditions Saint-Augustin, Femmes en quête de guérison, En dialogue avec l'invisible, et Priez à la cathédrale de Lausanne. Au revoir Aurélie Netz.
Merci beaucoup.
Le dernier week-end de septembre à Lyon s'est déroulé l'Assemblée Générale et le séminaire annuel de l'association Profil. Le micro de Soleil y était et a permis à Jacques Champeau, son président, de nous en parler.
Profil, c'est une association qui a un peu plus de 30 ans. Elle a été fondée par le pasteur Jean Daumont, qui avait fait pas mal d'audiovisuel dans sa carrière. Bon, elle s'est développée depuis. D'ailleurs, maintenant, on doit être dans une quinzaine de groupes à peu près en France. On doit être 300 personnes à peu près. Et donc le principe, c'est d'avoir des réunions mensuelles où localement, donc on se regroupe à 10, 15, 20, ça dépend des groupes, pour discuter soit d'un film, soit de deux films qu'on a vus dans les cinémas, c'est-à-dire des films qui viennent de sortir. Donc c'est pas le principe du ciné-club où on voit des vieux films qui ont 20 ans, c'est de films vraiment qui sortent. L'idée de Jean Daumont, c'était un peu comprendre le monde à travers le cinéma. Et c'est vrai que c'est une belle ambition et ça marche bien. Donc, alors on édite aussi une revue, on a un site, mais l'essentiel du fonctionnement de l'association, c'est les groupes locaux. On organise donc chaque année un séminaire national, couplé à notre assemblée générale, donc qui est sur 2 jours. Et cette année, le thème, c'était le repas au cinéma, la table au cinéma. Donc c'est un sujet qui est évidemment très très vaste, ça inspire beaucoup les cinéastes, et puis il se passe beaucoup de choses en général autour d'un repas. Et donc nous avons eu... 7 ou 8 modules et 2 films pour montrer des exemples dans le cinéma français mais aussi mondial.
Pour retrouver plus d'informations sur Profil mais également toutes les localisations de ces groupes locaux, rendez-vous sur le site www.pro-fil-encore-online.fr. Et nous nous séparons avec le groupe Sens Unique qui chante, et on pouvait trouver mieux ce matin, L'Invisible.
Quand la route se fait piège, qu'on marche sur un fil. Quand la nuit devient sans fin, une dormir inutile. Quand toute ma résistance s'est même envolée. Quand l'espérance n'est plus qu'un beau conte de fées.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Éric Perruchot-Triboulet à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision à 10h ce matin sur France 2 dans Présence protestante, c'est un magazine qui pourra certainement trouver quelques résonances avec l'émission de ce matin. Ma foi, autour de la thématique de la lumière. Mais sur Culture, ce sont vos informations de 9h dans quelques instants, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Moi, je vous souhaite un très très bon dimanche à chacune et chacun.
se fait douter.